J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujima, locataire oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous propose ce nouveau numéro de son magazine citoyen. Dans une lettre adressée au Proved, IPP et Diprosec, le secrétaire général AI à l'EPST demande à ses autorités du secteur, tout à fait cessantes, d'envoyer des équipes de contrôle dans toutes les écoles de leurs entités respectives afin de s'assurer de la présence physique de chaque enseignant dans son établissement d'affectation et d'établir le constat d'absence pour les enseignants grévistes et procéder immédiatement à leur désactivation dans les fichiers pays ainsi qu'à leur remplacement par les nouvelles unités. Alors comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez participer à cette émission en composant le 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69. Jocelyne Mukendi et Paul Badianyam concourent à la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Alors nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Monsieur Jean Bosco Puna, qui est avec nous, le porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Jean Bosco, bonjour.
Oui, bonjour J.R.
Et merci d'être venu échanger avec nous sur cette question. Est-ce que on peut évaluer la grève décrétée par la synergie des syndicats des enseignants? Nous sommes aujourd'hui à la première semaine. Et qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain?
Merci beaucoup, J.R. Merci de l'opportunité que vous nous accordez pour que nous puissions échanger avec les auditeurs de la radio Okapi et avec les enseignants. En fait, la grève, la non-reprise des travaux avait été décrétée le 25 septembre dernier dans une grande assemblée générale des enseignants. Comme vous le savez, dans nos habitudes, vous ne pouvez pas prendre des décisions de manière unilatérale. Nous ne sommes que des porte-voix, des porte-paroles. Et donc, le 25 septembre, nous avons tenu la grande assemblée générale des décisions qui a décidé de la non-reprise du travail dans le secteur de l'EPST. Et dans les provinces, mêmement, il y a eu des assemblées générales qui ont entériné la décision qui avait été prise au niveau de Kinshasa. Alors, nous entrons à la deuxième semaine. Eh bien, il faut comprendre que toute la première semaine était paralysée. On ne doit pas confondre ici. Ce sont les enseignants, tout régime confondu, tout régime confondu, je veux dire, donc conventionné, non conventionné, qui sont effectivement en grève. Parce qu'on a tendance à croire que ce sont les écoles conventionnées catholiques. Non, ce sont les enseignants du régime général. Je vais parler des conventionnés et des non conventionnés. Alors ici à Kinshasa, effectivement, la grève est là, mais aussi dans toutes les provinces de la République. Parce que le Sinecat et la Synergie, nous sommes sur l'étendue du territoire national. Eh bien, vous pouvez le vérifier, hormis quelques écoles qui ont peut-être peur, mais la majorité d'écoles sont paralysées. En fait, ici, ce n'est pas une joie pour nous, parce que comme vous le savez, nous, en tant qu'enseignants, notre devoir, c'est de pouvoir encadrer la jeunesse. Parce que n'oubliez pas, JR, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est elle qui va devoir prendre demain. Elle doit être bien formée. Donc aujourd'hui, la grève à 90%, je dirais, elle est là. Elle est présente. Il faut que le gouvernement donne des réponses pour que les enseignants puissent reprendre le travail.
Alors, on reproche aux syndicalistes que vous êtes de déclencher la grève sans préaviser l'autorité.
Non, mais vous savez que nous sommes des syndicalistes bien formés. Près de 25 ans dans ce métier, dans ce travail de défendre les autres, nous ne pouvons pas nous hasarder à faire n'importe quoi. Tout a été bel et bien fait dans le respect de normes. Nous avons préavisé le gouvernement depuis l'année passée d'ailleurs, et après, parce que les enseignants menaçaient même l'examen d'État. Mais en tant que syndicat responsable, nous leur avons dit...
Il y a quelques mois même, vous avez organisé des sit-ins.
Ah, mais justement, nous avons dit, il est hors de question, il faut absolument que l'année se termine. Mais même avant que l'année ne puisse se terminer, eh bien, nous avons pris contact avec le gouvernement via les ministères de l'EPST pour que finalement qu'ils comprennent les doléances des enseignants. Nous avons organisé le 13 août un sit-in devant les ministères de l'EPST et nous avons déposé les cahiers des charges au ministère de l'EPST, à la primature et à la présidence. Dans ces cahiers des charges, eh bien, nous avons rassemblé les principales doléances, les principales revendications, desiderata des enseignants. Ça a été déposé en bonne et due forme un mois bien avant la rentrée des classes. Malheureusement, le gouvernement n'a accordé aucune importance à ces cahiers de revendications. Et voilà, aujourd'hui, les choses ne marchent pas.
Alors, on a convoqué la commission paritaire, et sans vous, sans la synergie des syndicats, mais on signale la présence du secrétaire général de Sinecat.
Bon, mais regardez, c'est vraiment dommage.
Est-ce qu'il y a un doublon au niveau du secrétariat général?
Effectivement, il y a un doublon. Je vais simplement dire que c'est vraiment dommage parce que dans un état de droit, l'IDPS qui est au pouvoir aujourd'hui avait connu à un moment donné le même problème de doublement, de dédoublement de leur parti. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant que ceux qui arrivent aujourd'hui au pouvoir puissent appliquer les mêmes méthodes du passé. Regardez, le Sinecat que moi,
non, ça
je dirige.
Que vous avez été rayé, je ne sais pas si je vais utiliser, chassé des écoles conventionnées catholiques. C'est pourquoi vous n'allez pas représenter, vous ne représentez plus les syndicats, les Sinecat.
Oui, mais regardez l'ensemble d'enseignants qui sont paralysés et qui sont en grève. Vous pensez que ces gens-là ne sont pas intelligents pour qu'ils suivent quelqu'un qui ne porte pas leurs revendications. En fait, lorsqu'on constate effectivement que tel syndicaliste veut effectivement le bonheur de ses compères, eh bien, les méthodes, même en Afrique, les syndicats qui portent la voix, les syndicats incorruptibles, parce qu'il faut quand même souligner les côtés forts de notre syndicat, nous ne sommes pas dans ces histoires de corruption. Et nous avons tenu un congrès en bonne et due forme, et tous les enseignants le savent, et le camarade Jean Bosco Opuna a été porté à la tête du Sinecat. Aujourd'hui, il y a un Sinecat fabriqué qui est là pour le besoin de la cause, mais qu'est-ce que vous voulez? Si le gouvernement qui arrive aujourd'hui, c'est là où il trouve que c'est plus facile de pouvoir manipuler, eh bien, il va là-bas. Mais les enseignants restent fermes, ils sont déterminés, ils savent que les syndicats... Et même alors, hier, moi j'ai été déjà réhabilité par le ministre Gaston, et si le syndicaliste est permanent syndical, ce sont des notions qu'on ne comprend pas. Un syndicaliste peut rester permanent syndical et il continue à défendre ses pairs. Donc, j'ai été réhabilité d'abord par Monseigneur Laurent Mosengo, quand j'ai été suspendu, toujours dans cette revendication, et parce que vous savez, à cette époque-là aussi, c'était la prime des parents, et vous savez qu'aujourd'hui...
Qui vous divisez
avec l'Église, oui. Avec l'Église, il faut dire avec l'Église. Et quelques temps après, bon, j'ai été réhabilité parce que l'Église avait effectivement remarqué que c'était de l'injustice. Parce que personne ici ne peut vous dire pourquoi j'ai été suspendu. Je suis un enseignant correct, un enseignant qui sait effectivement remplir sa mission. Eh bien, j'ai connu tous ces problèmes simplement parce que nous avons fustigé le système de prise en charge des enseignants par les parents. Un système clientéliste, diabolique, pervers,
mais aujourd'hui, à cause de votre synergie, de la synergie des syndicats des enseignants, que certains parmi vous, en tout cas vos compères, ont été désactivés.
Bon,
dans le fichier de la paie.
Mais c'est bien
si
dommage.
Si vous n'avez pas décrété la grève, on n'allait pas arriver à ce niveau des défis du gouvernement vis-à-vis des syndicats.
Ah, mais c'est dommage. Comment un gouvernement peut-il défier toute la communauté des enseignants? Mais parce que les enseignants, nous sommes plus de 600 000. Vous allez nous défier simplement parce que nous exigeons les bonnes conditions de travail. Vous savez, si vous n'avez pas... Vous ne réunissez pas ces conditions-là, je vous dis que ça sera difficile pour que les écoles puissent fonctionner normalement. Fonctionner normalement signifie que l'enseignant est devant les élèves, il enseigne correctement tel qu'il a appris, et puis à la fin il donne le devoir. Tout ça ne s'était plus fait l'année passée. Et en tant que syndicat responsable, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut absolument que la gratuité rime avec la qualité. Une gratuité qui n'a pas de qualité, c'est de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, deux ans après avoir porté la gratuité, c'était une demande sociale, n'oubliez pas. C'est nous qui avons demandé la gratuité. l'unanimité et le président de la République, Félix, a entériné mes coups de chapeau. Mais maintenant, il faut aller vers la consolidation de cette gratuité. Pas avec des discours vains, non, mais avec la qualité. Parce que si nous formons notre jeunesse sans qu'il y ait de la qualité, eh bien, je crois que demain, nous allons importer des enseignants ici au pays qui viendront enseigner à la place des Congolais. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc, si je dois clore les débats sur le SIDECAT des ailes, il faut simplement dire que lorsque vous devrez discuter, on discute avec les syndicats porteurs des revendications. Nous avons été devant les ministres avec les deux ailes, l'aile instrumentalisée et le SINECAT qui vient des enseignants. J'ai dit au ministre qu'il fallait tenir la commission paritaire, 2 mois avant je crois. Eh bien, l'autre aile et tout le syndicaliste de Mallette qui accompagne le ministre.
Il paraît que c'était 300 personnes qui
300 personnes dans une commission
qui ont
paritaire.
Participé à cette commission paritaire.
Et avec des primes, je ne vais pas citer les montants qui avaient été donnés, mais on a saigné les finances publiques pour rien. Donc vous comprenez que nous avons exigé la commission paritaire, tous les bancs syndicales, intersyndicales confondus avec l'aile instrumentalisée, mais ils ont dit au ministre pas question. Mais aujourd'hui, les événements nous donnent raison. Si le ministre est franc, il va comprendre.
Il revient encore sur la table, autour d'une table avec le banc syndical. Alors, vous serez cette fois-ci associé.
Bon, vous savez, nous ne nous battons pas pour être associés.
Est-ce qu'on vous a notifié d'ailleurs?
Nous avons appris, jusque-là nous n'avons aucune notification, mais si le ministre s'en va avec la même configuration, mais déjà vous comprenez qu'il n'y aura pas de solution.
Il est parti sur des fausses bases.
Oui, mais il va partir sur des fausses bases. Hein, vous savez, les mauvaises prémices ne peuvent pas donner de bonnes conclusions. Donc, le ministre...
Mais la question des désactivations, est-ce que le ministre n'avait pas ses droits là?
Non, il n'a aucun droit. C'est irresponsable d'ailleurs. Regardez.
Non, mais les mots là sont forts quand même. Irresponsable.
Oui, c'est la décision.
Parce que nous avons lu la décision.
La décision
signée par un directeur de service.
Mais la
qui
décision
faisait office de secrétaire général AI.
Mais bien sûr, mais regardez, cette décision là, nous la qualifions d'irresponsable. Irresponsable pourquoi? D'une part, lorsque quelqu'un va en grève, eh bien il est protégé par les lois de la République. Parmi les lois, il y a la loi des lois, la loi mère, la Constitution. En son article 39, le droit de grève est reconnu et garanti. Lorsque vous prenez les statuts qui nous gèrent également, là le droit de grève est reconnu et garanti. Et donc c'est une décision irresponsable que de pouvoir désactiver des enseignants. Deuxième chose, les ministres, la circulaire du ministère dit que on va devoir remplacer ces enseignants par
les nouvelles unités.
Mais c'est encore irresponsable parce que là, c'est un dysfonctionnement qu'on est venu créer dans le système éducatif. Parce que les nouvelles unités travaillent déjà. Ces nouvelles unités dont nous parlons aujourd'hui qui ne sont pas payées, ils sont déjà dans les secteurs.
Ils seront remplacés par qui?
Alors, mais ils seront remplacés par qui? C'est-à-dire qu'on va recourir aux partis politiques. On va recourir aux messieurs Landa, à messieurs ordinaires qui doivent venir enseigner la chimie, la géographie, l'histoire, hein, qui doivent venir occuper les enfants. Mais je crois que...
L'intention dans tout ça, c'est de récupérer parfois des écoles catholiques. Hein. Je crois que ça relance encore les débats sur la convention Église-État.
Non, mais je crois que ces débats-là, nous conseillons notre gouvernement à ne pas aller jusque-là. Regardez, si vous faites une petite comparaison, JR, entre les écoles non conventionnées et les écoles conventionnées, vous allez comprendre qu'il y a quand même un minimum d'effort hein, qui est fait au niveau des écoles conventionnées. Tous les régimes confondus, vous prenez les conventionnées catholiques, protestantes, kimbanguistes, etc. Il y a encore de la discipline, il y a encore de l'éthique, il y a encore un minimum d'organisation. Alors, si aujourd'hui on veut donc détruire les systèmes d'enseignement, on va aller dans ce genre de décisions et je crois que ça sera inacceptable. Mais il faut également dire que la convention est là, il y a toute une procédure. Je crois que l'État ne va pas devenir un État tyran. Non, l'État doit protéger tout le monde et surtout l'enfant. Le droit à l'éducation publique de qualité, c'est un droit. On ne peut pas violer cela. Nos enfants ont droit d'aller à l'école, mais ils ont besoin d'avoir une éducation de qualité. qualité et non ce voilà. qui est présenté aujourd'hui.
On va ouvrir les standards pour accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints pour ce débat. Nous vous en remercions hein, de l'intérêt que vous accordez à nos différents sujets qui sont postés et parce que vous trouvez de l'intérêt de pouvoir échanger de manière citoyenne avec nous. Nous avons reçu il y a quelques semaines Jean Bosco Pouna pour, disons, voir clair sur cette décision d'aller en grève. Vous savez ce qu'il nous avait dit et aujourd'hui, selon lui, l'histoire nous donne raison. C'est pourquoi nous l'avons encore invité pour faire l'évaluation et de tout ce qui est cela a donné. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Marie-Paul, vous nous avez rejoint, vous êtes à Kisangani. Bonjour Marie-Paul.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio.
Êtes-vous d'avis avec ceux qui encouragent les enseignants d'aller plus loin encore avec cette grève ou de pouvoir radicaliser la grève?
Merci pour la question. Il faut d'abord préciser qu'au-delà du fait que cette grève serait entamée des irrégularités des conditions constitutionnelles pour décréter ces droits reconnus aux travailleurs, les travailleurs de tout horizon. Mais je note que le secrétaire général AI à l'éducation nationale ne peut pas désactiver certains grévistes. Il n'a pas ses droits, il n'a pas ses prérogatives en tant qu'adi intérim de le faire. Alors, s'il procède justement à la désactivation des enseignants en faveur des nouvelles unités, c'est aller au-delà de ses attributions comme intérimaire, parce que les lois éternes et les lois internationales reconnaissent quand même ses droits à tout travailleur. Les travailleurs, lorsqu'ils trouvent d'ailleurs l'invité à dire, lorsqu'il est en face des mauvaises conditions, il doit aller en grève, c'est un droit reconnu, et on ne peut pas résoudre un problème à créer à d'autres. Mais chercher à désactiver les gens, c'est justement créer des problèmes incommensurables dans notre pays. On ne sait même pas comment on peut gérer ça. Et d'ailleurs, si nous allons encore en droit du travail, je voudrais ici quand même que le secrétaire général AI de l'EPC nous dise dans les barèmes des sanctions reconnues à tout employé vis-à-vis de ces travailleurs, de quelles sanctions il a pris en désactivant ces gens. Je pense que c'est une violation. C'est une violation pure et simple. Voilà pourquoi, à mon avis, je trouve que le comité a effectué des affaires courantes et non chercher à prendre des décisions qui vont au-delà de ses compétences en tant qu'intérimaire. D'ailleurs, s'il procède de cette façon, en désactivant, et surtout que nous savons que la grève est décrétée dans toute la République, on va désactiver combien d'enseignants? On va les remplacer par qui? Et quel serait vraiment le sort de l'éducation
alors,
nationale?
Voilà, c'est une décision dangereuse,
c'est une décision illégale et qui n'est pas constitutionnelle. Alors moi, à mon avis, je trouve que comme ces gens-là ont droit, bien évidemment, comme je l'ai dit à mon autre auditif, qu'il y a eu quand même des préalables qu'il fallait faire, parce qu'on ne peut pas sécher les secteurs, il fallait quand même qu'il y ait des gens qui font ne plus que la représentativité, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas, il y a beaucoup d'écoles qui ont fermé pratiquement les portes, et c'est ça un peu l'irrégularité, mais c'est travailler en droit. Monsieur le journaliste, c'est quand même c'est quelque chose qui laisse à désirer dans notre pays. Le travail ennoblit l'homme, mais les gens qui travaillent chaque mois, on ne fait que des promesses, on ne sait pas résoudre leurs problèmes. Et même si on va résoudre, il n'y a pas le système de rappel. Vous savez, quelqu'un qui a travaillé pendant 7 à 6 ans, il n'est pas payé. Mais le jour où le gouvernement va décider de le payer, il n'aura même pas de rappel.
Voilà, merci beaucoup Marie-Paul. Merci beaucoup Marie-Paul.
On va continuer à revendiquer leurs droits, néanmoins en observant aussi les différentes
merci
dispositions.
Merci beaucoup Marie-Paul. Alors Maître Edmond, vous êtes en Bandaka. Bonjour Maître Edmond.
Bonjour Monsieur Vier, je salue l'invité ainsi que tous ceux qui suivent la fréquence de la paix.
Alors, d'entrée de jeu, quelle est la situation en Bandaka? Est-ce que les écoles sont ouvertes et les enfants sont à l'école? Les enseignants, comment réagissent-ils?
Bon, je pense que ici en Bandaka, comme partout ailleurs en République, je pense que la situation est identique, c'est la même situation. Les écoles publiques n'acceptent pas d'ouvrir les portes. et seulement les écoles privées qui fonctionnent normalement, mais les écoles publiques ou les écoles conventionnées
ne sont
pas opérationnelles jusqu'à nouvel ordre, comme ils les soutiennent.
Alors, d'entrée de jeu, vous soutenez que les grévistes puissent radicaliser la grève, ou bien qu'on s'arrête là et puis qu'on rentre sur le banc de discussion avec l'autorité.
Bon, moi, ce qui me concerne, je pense que je ne suis pas pour la grève. Hein. Je ne suis pas pour la grève parce que les enseignants de l'école primaire secondaire doivent savoir qu'ils ne sont pas les seuls enseignants. Il y a aussi certains enseignants qui sont au niveau universitaire aussi, qui enseignent, qui ne sont pas payés. Moi qui vous parle aussi, je suis matriculé, je suis non payé à l'enseignement supérieur, mais j'assiste les professeurs. Pour vous dire que la situation, c'est une situation que les autorités actuelles ont héritée, et c'est une situation que les autorités sont en train de se battre pour pouvoir suggérer un peu la masse salariale de tout le personnel, notamment pour les enseignants. Et nous devons quand même essayer de promouvoir l'éducation et le degré d'intelligence de nos enfants. Parce que vous allez voir que le calendrier scolaire congolais a connu un petit retard de un mois. Et lorsque vous allez radicaliser la grève pendant cette période, que nous sommes déjà en retard, et cela va impacter négativement sur le niveau d'éducation de nos enfants. Ce sont les enfants de ces enseignants, ce sont nos enfants à nous tous. Donc nous devons quand même avoir une certaine équité. Bien sûr que le droit de la grève, c'est un droit reconnu sur le plan de la Constitution et des textes réglementaires du pays, mais aussi il faut l'équité, les bons sens, pour pouvoir promouvoir. Nous devons contribuer tous. La charge d'éduquer les enfants ne revient pas seulement à M. Tshisekedi, au professeur Tony Mamba. La charge revient à nous tous. Je pense que la grève vient dans un temps suspect. Pourquoi pas préconiser cette grève, par exemple, pendant la fermeture, essayer un peu de chercher le pourparler avec les autorités, et on vient gréver au début même de l'année scolaire, alors que le gouvernement a quand même trouvé des solutions. J'ai suivi que le ministère essaye un peu d'ajouter 40 000 francs sur la masse salariale.
Donc vous estimez que 40 000 francs, c'est amplement suffisant. C'est une bonne chose, 40 000 francs.
Oui, c'est une bonne chose. Et puis, M. Gilles, je voudrais également parler sur la désactivation. Je pense qu'on s'en prend au secrétaire général inutilement. Le secrétaire général, c'est une autorité qui travaille sous les ordres de la hiérarchie. Si le ministère a donné l'ordre au secrétaire général, qu'il soit AI ou pas, il a le droit de pouvoir exécuter les ordres lui donnés. Et je pense que lorsqu'on arrive dans une institution, on suppose que certaines solutions ont été trouvées. On arrive dans une institution, on trouve qu'il n'y a pas d'enseignant. On établit un procès verbal et automatiquement, il y a des nouvelles unités, on les remplace. Je pense que sur ça, c'est une mesure. Il ne faut pas confondre le code du travail qui est pour le privé avec les statuts qui régissent les agents publics de l'État. Donc le pouvoir public ne peut pas accepter qu'un secteur comme un secteur d'éducation puisse être bradé par le personne, vous voyez, l'invité qui est au plateau, il ne veut pas de l'UDPS. Donc lui-même déjà, dans son animus, dans son esprit, il a déjà l'esprit politique. Donc vous voyez, le genre de syndicat qu'on peut avoir par exemple. Donc nous ne devons pas brader l'éducation des enfants, nous prions à nos enseignants de pouvoir regagner l'école afin que nos enfants soit éduqué, que nous puissions également préparer
merci
une
beaucoup.
Bonne élite.
Voilà, on va accueillir également Amos. Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour, quelle lecture faites-vous de cette situation?
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, bonjour à l'invité.
Oui, je disais, quelle lecture faites-vous de cette situation?
En fait, la lecture est que d'abord, nous tenons à informer aux enseignants qu'ils ont le soutien de la population congolaise. Si du moins, cette fois-ci, ils ne vont pas encore se dédire comme ils l'ont toujours fait. Je venais de suivre les deux ailes au niveau du Sénégal. Ce qui est vrai, cela peut être une stratégie du régime qui veut diviser pour mieux régner. On connaît nos politiques. S'agissant de la désactivation des enseignants, je pense que cela prouve à suffisance la médiocrité à outrance de ce régime. Parce que la grève est constitutionnelle. Article 39, il y a un auditeur qui a y aller dire. Je ne comprends pas comment ce gouvernement peut arriver à ce niveau au lieu qu'ils répondent aux revendications des enseignants, médiocre que ce gouvernement est, il veut passer à la force. La question que tout le monde se pose hier, est-ce que réellement ce gouvernement tient compte de la situation du peuple congolais? Je pense non, parce qu'il y a déjà 3 ans depuis que le chef de l'État avait décrété la gratuité, que tout le monde avait salué au fait. Mais quelles sont les mesures qu'on a mis en place pour accompagner cette gratuité? Aucune mesure. Et on se pose la question, pourquoi c'est juste à la veille que le ministère national de l'EPST a jugé bon d'appeler les enseignants pour des pourparlers? Ils ont eu tout l'état, surtout avec les perturbations que nous avons connues l'année passée. Je pense que si l'Union serait gouvernée par des gens responsables, cette question devait être traitée bien avant que la rentrée n'ait lieu, pour permettre à nos enfants d'étudier, ce qui n'a pas été le cas. Mais ce que je voulais signaler, je pense que le chef de l'État devrait aussi voir les gens avec qui il doit travailler. Et c'est là que je me demande, est-ce que ceux qui sont en train de travailler comme ministre maîtrisent ce qu'ils doivent faire, ou ce sont des affairistes qu'on a amenés de je ne sais où, juste pour venir chercher l'argent au Congo? Parce que je ne vois pas en quoi le ministre de l'EPST accompagne le chef de l'État dans sa vision. Il veut passer au forcing, mais finalement...
Oui, mais Amos, il faut retenir qu'il s'agit quand même d'un juriste.
Pardon?
Il s'agit d'un juriste qui connaît quand même le texte.
Mais non, mais il n'y a pas... Le Congo,
ça ne devait pas vous faire rire, Congo, parce que c'est un juriste. Et il sait de quoi il parle quand il s'engage sur la route, sur le chemin de la désactivation. Il sait là où ça va l'amener.
C'est là que je voulais en arriver. Si c'était question d'avoir des juristes au pays, le Congo ne serait pas la honte dans tous les domaines comme le Congo fait la honte aujourd'hui. Ce sont ces gens-là qui s'appellent des juristes, des professeurs, mais au nom de leurs intérêts égoïstes. Ils mettent leurs intelligences au service du mal. Et c'est très grave pour ce pays. C'est très grave et regrettable, JR.
Non, mais comment voulez-vous, le gouvernement qui paye les agents et fonctionnaires, puisse, au fait, enregistrer, je ne sais pas si je n'ai pas appelé ça un manque à gagner, c'est-à-dire quelqu'un que le gouvernement paye, il s'absente, il ne veut pas donner cours aux enfants. Il ne veut pas dispenser les cours.
JR, on les paye combien? Je voudrais demander
190 000 francs congolais ou 190 dollars, je ne sais pas. Eh bien, bon, tellement qu'on est dans les dollars, on confond parfois avec les CDF.
Est-ce que le ministre peut accepter même de travailler pour 500 dollars le mois? Je doute. J'ai eu à dire dans l'émission passée, le chef de l'État touche combien? Le président du Sénat, de l'Assemblée, le premier ministre, tous ces dignitaires-là touchent combien? Ils ne sont pas des Congolais spéciaux, ce sont des Congolais comme nous autres. Pourquoi ils doivent toucher des millions et des millions de dollars et ils vont donner à un enseignant 150 000 francs, à un militaire, à un policier?
Voilà, calmez-vous. On va poursuivre cette émission avec d'autres auditeurs. Merci beaucoup. Amos, 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs.
Voilà, merci une fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Nous avons Jean Bosco Pounan, porte-parole de la synergie des syndicats, des enseignants en RDC. Vous venez de suivre cette première série. Et quelle est d'abord votre réaction?
Bon, la réaction...
Quand un auditeur dit « la population est avec vous », ce ne sont pas des syndicats, mais la population qui est avec vous. Quel sentiment avez-vous d'entendre ça?
C'est un sentiment de soulagement, dans la mesure où nous nous sentons accompagnés. Mais en fait, la population, mais c'est nous-mêmes, JR. Nous tous, nous nous retrouvons dans la population. Parce que, comme je l'ai dit, lorsque nous enseignons à nos enfants, eh bien, nous enseignons à nos propres enfants, c'est vrai, mais nous enseignons également aux enfants des autres. C'est-à-dire, nous faisons un travail pour l'intérêt de la communauté. Nous sommes là et nous avons le devoir de bien former cette jeunesse, parce que le Congo appartient à nous qui sommes vivants aujourd'hui. Le Congo appartient à ceux qui viendront demain. Et donc, aujourd'hui, nous devrons jeter les jalons. La population a tout à fait raison de pouvoir nous accompagner dans ces combats. Et tous les enseignants doivent être honorés parce que aujourd'hui, ils ont fait montre qu'ils vont devoir être déterminés, ils vont aller jusqu'au bout. Il faut qu'on nous donne les salaires qu'il faut pour que nous puissions faire le travail. Une autre réaction, eh bien, vous avez suivi un discours partisan, je ne sais pas du moins qui a parlé de la politique. On a tendance à mélanger les choses, vous comprenez. Autrefois, sous le régime Kabila, c'était la même chose. Lorsque vous faites des revendications, on prend les raccourcis de la politique. Non, nous sommes des syndicats et nous faisons le travail de défendre les intérêts sociaux professionnels de nos membres. Ce que nous demandons aux dirigeants, c'est de donner des réponses aux problèmes qui sont posés. Parmi les problèmes qui sont posés aujourd'hui, il nous faut un nouveau barème salarial. Ce barème a été promis et même le chef de l'État est allé plus loin. Il a parlé du barème de Mboudi. Je crois que c'est important que nous rappelions ces barèmes-là. Si on donne ces barèmes, on ne va pas commencer à nous donner des discours politisés qui ne sont pas acceptables. L'autre revendication... Naturellement, c'est la suppression des zones salariales. On ne peut pas comprendre qu'un enseignant qui est à Boma, qui est à Mwanda ou qui est à Katakokombe puisse toucher un salaire qui soit différent de celui qui est dans une ville. Hein, au moment où nous tous, nous savons que c'est 190, 290, ce sont des clivages qui doivent tomber. Il y a également la question des NU. Lorsque le ministère remplace les enseignants par de nouvelles unités, on ignore que le secteur de l'enseignement, c'est un secteur spécialisé. C'est-à-dire qu'il n'y a que des spécialistes qui arrivent dans les secteurs. Donc il faut absolument que toutes les NU soient payées. Comment voulez-vous comprendre, M. JR, que quelqu'un travaille pendant des années, 5 ans, 6 ans, eh bien, sans être payé. Et ce monsieur-là doit être devant les élèves. Et donc il est quand même mercenaire devant les élèves. Le gouvernement doit comprendre cela. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer cela. Et récemment, vous nous avez vu avec la revendication sur la retraite. On a envoyé en retraite des enseignants sans avoir été notifié. Mais on ne comprend pas ce gouvernement. Vous ne notifiez pas la personne qui va en retraite et puis vous ne lui accordez pas en contrepartie ce qu'il doit avoir. Mais en même temps, vous le désactivez. Aujourd'hui, vraiment, le terme est à la mode.
Mais je me pose une question. C'est comme si on est dans un tableau de déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Vous avez mené une lutte pour fustiger la gouvernance de Willy Bakonga, qui aujourd'hui, il est là où il est, hein, la justice avec la justice. Mais Tony Mwaba qui les remplace, c'est comme si c'est Saint-Pierre et Saint-Paul. Et bien, la même situation ne change pas. La grève, vous êtes toujours en grève. Les NUI, la question n'est pas résolue. Finalement, on fait du surplace.
Bonnet blanc et blanc bonnet, mais c'est cela. Mais
du pareil au même.
Mais qui l'eût cru? Nous n'avions pas cru qu'aujourd'hui, on serait logé dans cette même maison. On se disait avec, vous avez vu les premières apparitions de Tony Mwaba. Eh bien, il nous a rassurés. On avait cru qu'il venait faire quelque chose. Mais regardez le scandale de l'IGF. Regardez tous ces enseignants qu'on désactive pour qu'ils aillent en retraite. Mais en même temps, ils sont remplacés. Mais on ne comprend rien. On ne comprend du tout rien. Donc, je dois dire absolument qu'il faut que les choses changent. Nous étions en train de réagir aux auditeurs pour dire finalement que nous avons besoin d'encadrer, mais nous voulons que les enfants qui vont à l'école puissent bénéficier d'une éducation de qualité. Il ne faudrait pas que nous, enseignants, nous soyons toujours au banc des accusés, qu'on dise que voilà, les niveaux continuent à baisser, ce sont les enseignants qui ne font pas leur travail au moment où on ne nous met pas dans les conditions normales de travail. Je vais rappeler un autre détail ici avant de terminer. J'ai dit ici, hier, lorsque la table ronde s'est tenue pour évaluer la gratuité, et il y avait la question relative aux infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, on a explosé les ratios. Dans une classe, au lieu de trouver 45 élèves, 50 élèves, aujourd'hui, vous avez 100 apprenants. Mais c'est grave.
Quand vous allez au lycée Kabambar, en 7e et en 8e, les élèves, disons, la salle accueille déjà plus de 80.
Ah, mais voyez-vous.
80.
Mais donner la dictée. Comment l'enseignant va-t-il corriger la dictée?
Non, mais c'est
vous comprenez? Donner la dissertation. Donc, ce sont des activités aujourd'hui qui sont bâclées. Et nous disons au gouvernement non. Il doit reculer, il doit répondre au cahier de revendications des enseignants. Cette fois, je crois que les enseignants ont tout compris.
Nous n'allons plus. Donc, les 40 000 qu'on vous a donné, c'est pas suffisant.
Non. Les 40 000, c'est pas suffisant.
C'est un acte de bonne foi, non?
Non.
Les bonnes fois et premier pas.
Non, l'enseignant n'est pas un indigent à qui on va se dire, bon, qu'est-ce qui me reste en poche? Bon, on le lui donne. Non. On a parlé de 20 000 francs prime de brousse, 20 000 francs à tous les enseignants. Donc déjà là, c'est pas 40 000 francs.
Alors vous n'allez pas vous dédire?
Non, nous n'allons pas nous dédire. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, ça n'a jamais été les syndicalistes qui se dédisent. Ce sont les enseignants eux-mêmes. Par moments, ils ont peur. Vous voyez, avec la menace là, ce sont toujours les syndicalistes clients là qui entourent les ministres qui lui ont dit, mais non, si vous créez la terreur, en fait, ça c'est la terreur pédagogique qui est créée. Si vous créez cette terreur là, il y a des enseignants qui vont devoir lâcher. Mais vous avez suivi nos collègues.
Mais ça n'a pas l'air d'être parce que collègue Boboto, on a dû chasser le secrétaire
général. Mais vous avez suivi la réaction. réaction de nos collègues de Boboto. Donc ils ont demandé au ministre de désactiver tout le monde. Et où est-ce que le ministre va trouver les spécialistes qui sont au collège Boboto? Je crois qu'il y a quand même de la mesure. Là, le ministre fait de la démesure et je crois qu'il n'est pas à sa place.
Voilà, on va réouvrir les standards pour accueillir d'autres auditeurs. Christian, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour, Jerry, bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution dans ces débats?
Bon, déjà, la qualité de l'agent, c'est-à-dire de la personne qui a désactivé les enseignants pose déjà problème. Je crois que c'est un intérimaire et donc son champ de manœuvre est très très limité. Il ne peut pas engager et il ne peut pas poser des actes allant dans le sens soit des révocations ou encore d'empêcher ou encore de réduire certains avantages reconnus aux agents ou aux enseignants. Et donc, on se pose la question, est-ce que pouvons-nous considérer cet acte comme étant une circonstance exceptionnelle? La réponse est non. Les motivations, en tout cas, ne reflètent même pas cette assertion. Et donc, je crois que c'est un acte qui ne peut en aucun cas produire des effets escomptés, parce que lorsque cet acte sera porté devant le juge, juge administratif, je crois que cet acte sera annulé. Lui étant juré, c'est celui qui a donné l'ordre. Je crois que c'est un ordre mal orienté et l'ordre mal reçu. On ne peut en aucun cas l'orienter, l'appliquer. Posez-lui la question étant qu'il est enseignant, devant ses étudiants, posez-lui la question. Je crois qu'il donnera la matière. Il ne pourra jamais confirmer cet état des choses. Et donc, allez-y comprendre que c'est juste pour, je sais pas moi, plaire à certaines personnes. Mais étant qu'humain, je crois que c'est inhumain. On ne peut pas poser de tels actes. Je crois qu'à l'époque de Matata Pony, il a eu à poser ce genre d'actes contre les fonctionnaires et agents de l'État, du ministère des Finances, notamment ceux de la DGI et consorts, en 2016. Ils ont été désactivés. Au jour d'aujourd'hui, ils ne touchent pas de prime. Ils n'ont qu'un salaire de 170 000 francs congolais. Et donc, cette mauvaise foi ne peut pas continuer. Nous dénonçons cet état des choses. Et à ceux qui sont aujourd'hui dans cette situation, je crois qu'il serait mieux de saisir l'autorité compétente. Et pourquoi ne pas chercher à solutionner la question des nouvelles unités d'une autre manière, au lieu de chercher à les remplacer pour créer un conflit d'intérêts entre les nouvelles unités?
Oui, il y a déjà des réactions au niveau du Parlement. Il y a l'honorable sénatrice Francine Mouyoma qui propose déjà une question orale avec débat adressée au ministre de l'EPST. Est-ce que vous comment avez-vous accueilli cette décision de la sénatrice?
Bon, vous savez, c'est pratiquement une caisse qui, je crois, ne pourra pas chercher à sanctionner le ministre. Donc, ils finiront toujours par faire quelques recommandations, cet acte ne posera, ne va pas poser, ne va pas, je veux dire, cadrer le ministre. Le ministre, peut-être, on va lui supplier. Nous savons comment est-ce que nos parlements, nos institutions fonctionnent, mais du moins, l'acte posé, elle est bonne, elle est salutaire. Donc, selon tout simplement le ministre des Réglements.
Et selon les informations que nous avons, demandant aux syndicalistes de revenir encore en négociation.
Oui, mais la négociation, il faut toujours négocier, mais il ne faut pas ici brandir une arme face à la personne avec qui vous négociez pour chercher à lui faire adopter votre position. Il faut négocier avec...
Donc vous estimez que le fait de désactiver, c'est une arme qu'on présente aux syndicalistes?
Évidemment, c'est vraiment une arme très fatale qu'il présente face aux syndicalistes.
Merci beaucoup.
Donc, pour que ces derniers ne puissent tout simplement épouser sa position. Et donc, ils ne vont pas négocier aux armes égales. Il faudrait vraiment qu'ils remettent d'abord les personnes concernées dans leur droit. Et de cette manière qu'ils pourront, je crois, négocier.
Voilà. Alors, on va prendre un syndicaliste également qui est membre d'ailleurs, il est à Matadi, pour en fait nous faire une idée, hein. Très clair sur la situation qui prévaut actuellement à Matadi. Simon Tsiloulou, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Vous êtes membre de la synergie des syndicats des enseignants au Congo central. Quelle est la situation? Est-ce que le mot d'ordre a été respecté? Et à une semaine après, quelle est la situation?
Je pense que le président de la République, moi-même, avant la fin de la semaine, je vais descendre à Kine pour aller lui déposer les réclamation des enseignants du Congo central. Jusqu'aujourd'hui, il y a l'école sans enseignants et respectée. Maintenant, tout de suite, parce qu'il plaît, nous avons assemblée générale de radicalisation de la grève sur toute l'étendue de la province parce que.
Mais comment décidez-vous, Simon, s'il vous plaît, comment décidez-vous de la radicalisation au moment où les ministres vous demandent, ils vous retendent la main, si je peux m'exprimer ainsi.
Oui, il a tendu la main, mais on ne tend pas la main avec une arme. On dit pour désarmer un fou, parfois il faut le tromper. Quand vous avez une machette ou une chicotte, vous dites à l'enfant de venir, tu ne vas pas le frapper. Quelle sera la réaction de l'enfant? Les enseignants veulent se prendre en charge maintenant à partir de cette mesure dragonienne, impopulaire, une mesure qui veut tendre à arracher au chef de l'État son électorat de 2023, parce que je ne peux pas comprendre. Il y a l'arrêté ministériel numéro 0038/2024 du 17 avril 2024 portant réglementation d'administration relative au régime disciplinaire.
Oui, quand vous parlez de 2024, vous voulez parler de 2004 2014 ou 2024
2004, oui. Alors, pourtant, voie de mesures disciplinaires et voie de recours au personnel des établissements publics. Et là, on dit bien, pour, par exemple, toutes les mesures de salaire, de sanctions sur salaire sont connues. Il n'y a aucune mesure qui est relative à suppression définitive des salaires des agents, qu'il n'y en a pas. Et puis d'ailleurs, pour remplacer quelqu'un, celui-là peut-être il a déserté, et pour constater une désertion, il lui faut un constat de 3 mois d'absence non motivée pour le faire. Mais les ministres, et puis à part ça, il faut voir aussi les statuts des carrières des agents des services publics de l'État et la législation sociale. Il faut lire ces lois pour prendre une mesure au-delà du normal. Nous pensons que la mesure prise par le ministre de désactiver, c'est ça qui a dégénéré. Aujourd'hui, nous sommes en pourparlers avec toutes les provinces.
Donc c'est cette décision que vous qualifiez d'impopulaire et qui a encore attisé le feu.
Oui, mais c'est ça.
Et certains parents ont préféré garder les enfants dans leur...
Maintenant, nous sommes en train de préparer des marches en province. Donc, chaque lundi, nous risquons, parce que je ne sais pas au niveau du national ce qu'on fait, mais déjà, nous sommes avancés. On a déjà pris chaque lundi. Nous devons commencer à marcher d'un point X jusqu'à l'Assemblée provinciale pour continuer à déplorer cette mesure. Toute la nation.
Merci beaucoup.
Toutes les provinces. Vous imaginez ce que ça peut faire. Alors, nous pensons que le ministre doit d'abord se rédiger. Il doit d'abord suspendre sa mesure-là et désactiver pour commencer les négociations. Et les négociations, la commission paritaire-là, il y a des conditionnalités. Il faut qu'on nous dise, on doit parler de quoi, pendant combien de temps, avec qui.
Mais encore faut-il qu'on vous associe, si on ne vous associe pas.
Allô?
Encore faut-il qu'on vous associe. Si on ne vous associe pas, je crois que vos propositions tombent à l'eau. Merci beaucoup, Simon.
Exactement.
Oui.
Exactement. Oui, d'une source sûre qu'il va devoir convoquer tous les représentants syndicaux des provinces et que les invitations sont déjà lancées. Et c'est là où le ministre est entré.
Et pourtant, le dialogue est prévu pour demain. Pour demain déjà, donc, si vous n'êtes pas notifié, c'est qu'il y a déjà un problème. Merci beaucoup, Simon. Alors, on va prendre Franck qui nous appelle de Vienne, en Autriche. Franck, vous êtes avec nous?
Bonjour, notre ami Gère. Bonjour aux amis qui se sont déjà exprimés. Bonjour à tous vos collaborateurs au studio.
Alors, monsieur l'abbé, vous êtes, à l'époque, vous avez eu à enseigner au Bandundu. Alors, quand vous entendez de telles situations au pays, que cela vous fait exactement?
Oui, je n'ai pas seulement enseigné, je continue à enseigner. J'aimerais encore reprendre mes enseignements au niveau supérieur parce que ça me fait mal. Je crois que dans un état de droit, parce que la RDC se dit un état de droit, nous devons commencer par rappeler que ce sont les arguments de droit qui doivent partout primer par rapport à la bonne gestion de l'État, qui se dit de droit, et non les 17. La RDC, c'est un État de droit. Et dans chaque État de droit, il y a des diverses expressions des droits des citoyens qui sont reconnus, entre autres, le droit à la grève, le droit à des réclamations pour améliorer les salaires, des droits de réclamation pour améliorer les conditions de service, et ainsi de suite. Puis, la constitution congolaise en vigueur reconnaît à chaque Congolais, à chaque citoyen congolais, tous ses droits. Aussi, le droit d'accès à un salaire équilibré et décent, et aussi le droit à la grève. Et si nous devons repartir de ces préalables, on est en train de se demander si nous sommes toujours dans le même état de droit, où il s'agit de cet état de droit selon les circonstances. Mon ami JR, nos parents enseignants, nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos oncles, tous nos compatriotes qui prestent comme enseignants sont dans leurs droits les plus fondamentaux. Ils sont dans le droit, ils ont le droit de réclamer des bons salaires, ils ont le droit de réclamer des bonnes conditions de service, ils ont le droit de réclamer d'être assurés parce qu'ils sont congolais. Ils assurent des maternités intellectuelles parce qu'on ne peut pas se dire un état de droit en dirigeant les enseignants, on ne peut pas se dire un état de droit qui veut se développer en dirigeant les services éducatifs, on peut pas se dire un état démocratique
voilà.
En appliquant la vie
à l'intimidation
là où on doit parler du droit. Moi je crois que personnellement, ce n'est pas seulement mon point de vue, je vous ai fait suivre les réactions de certains amis. La lettre qui émane du secrétariat général de l'EPSP, c'est vraiment en contradiction et en dérive
avec
par rapport à l'esprit même de la Constitution.
Merci beaucoup, Franck. Franck, on ne va pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui l'État ont fait des mots. Merci beaucoup. Et on profite d'ailleurs parce qu'il y a des micro-coupures. On ne saura pas vous garder le plus longtemps possible hein, sur les ondes des radios Okapi par respect de nos auditeurs. Alors on va prendre Jean Kimbuya, ancien secrétaire général de CIECO et aujourd'hui secrétaire général du Conseil syndical des services publics et privés. Jean Kimbuya, vous êtes avec nous ?
Je suis avec vous, messieurs les journalistes.
Alors, comment commentez-vous cette actualité, la situation qui prévaut dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique ? Avec la lettre du secrétaire général,
oui.
Et également la grève qui se radicalise, hein, si je peux dire ainsi.
Oui, moi je pense que nous sommes dans un état de droit. Je commence par la question de la désactivation des enseignants. Et cette décision viole tout simplement les dispositions réglementaires. Là, je cite l'ordonnance 232 du 15 août 1991 portant règlement d'administration relatif au personnel des établissements publics d'enseignement maternel, secondaire et professionnel, qui en son titre 4 stipule ce qui suit par rapport au premier autre avantage spécifique, l'article 19. Aucun enseignant ne peut être privé de son salaire s'il n'a pas été placé dans une position d'interdiction de service ou encore s'il n'a pas cessé définitivement ses services. Je renvoie l'autorité de l'administration à cette disposition de la loi et qui est en lien avec la Constitution, même à l'autorité des tutelles. Mais aussi, il y a la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics et de l'État sur les droits, devoirs et incompatibilités. L'article 93 est clair, alinéa 1. Les droits de grève est garanti à l'agent des services publics de l'État. Et au niveau de l'article 94, la liberté syndicale est garantie à l'agent des services publics de l'État. Donc ceux qui ont pris cette mesure peuvent répondre de ça devant des juridictions compétentes. Et nous, en tant que syndicalistes qui défendons les intérêts des travailleurs, nous encourageons les dialogues. Et les comités de liberté syndicale de l'OIT peuvent être saisis pour que le gouvernement soit mis au banc des accusés lors de la prochaine conférence internationale du travail à Genève. C'est inadmissible, même à l'époque de la dictature cela ne s'est jamais produit. L'état des droits, c'est le respect et la maîtrise des textes. Est-ce que syndicalistes se défendent uniquement des intérêts et les venir travailler aussi bien en milieu du travail que dans la société? Donc, nous invitons l'autorité des tutelles à lire la loi, à ne pas violer ces lois-là si on en veut vraiment à une éducation de qualité. Les enseignants ont le droit d'aller en grève. S'ils sont en grève, c'est parce que l'autorité doit se ressaisir, engager un dialogue fort. Autant mieux une absence de dialogue, un faux dialogue social. Nous le disons haut et fort qu'il faut qu'on respecte la loi. C'est là l'état du droit. Les peuples d'abord, ce n'est pas cela. Si les uns n'ont que 180 dollars, d'autres ont 10 000 et 7 000.
C'est
pourquoi
injuste.
Chercher à sanctionner illégalement en violant la loi fondamentale de la
République?
Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. C'est un droit légitime. Il faut que tous les syndicats allient dans la solidarité, en tout cas, dénoncer cela.
et que l'OIT pourrait être saisie au niveau local pour que le gouvernement puisse gérer ses prévoirs. Il faut avoir la maîtrise des dossiers. C'est là que je peux dire à cet âge, je suis solidaire avec ce travailleur-là. Mm-hmm. En ce mois d'octobre, qui est la mois de l'enseignant au niveau mondial, nous mobilisons du soutien auprès de la communauté nationale en faveur des enseignants. Monsieur Valé, d'après les faux gens de la République.
Merci beaucoup, Jean-Kim Bouya, d'avoir accepté de nous apporter cet éclairage. Alors, on revient dans ces studios pour conclure. Il est temps pour nous d'accueillir également Madame Félicité Ntanda, qui est coordonnateur du collectif, collectif des femmes d'enfants pour la vie et le développement. En un mot, Madame, aujourd'hui, vous êtes avec des mamans qui envoient les enfants à l'école et vous parlez sur la vie aussi des enfants. Alors, comment réagissez-vous par rapport à cette situation?
Bon, à entendre tous les auditeurs, j'ai senti qu'ils sont avec nous, nous sommes d'accord que les enseignants sont dans leurs droits. Et je dirais simplement que le gouvernement aussi se rappelle de l'article 43 qui accorde à l'enfant l'éducation.
Les droits à l'éducation,
mais l'éducation de qualité. Alors pour qu'une éducation soit de qualité, l'enseignant doit être mis dans de bonnes conditions pour que cette éducation soit réellement de qualité. Et nous disons que nous, de la synergie, parce que nous évoluons côté de la synergie des syndicats des enseignants pour que nous puissions connaître tous les problèmes qui se passent dans le secteur de l'éducation, qui est eu un secteur de la vie de la nation. Et nous dirons que le président de la République a toujours su que la synergie avait accompagné la gratuité de l'enseignement durant 2 ans. Et aujourd'hui, s'il ne prête pas attention, je ne sais pas si réellement nous pouvons continuer.
Ça risque d'être catastrophique. Voilà, alors, merci. On va terminer avec Jean Bosco Pouna, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Vous venez de suivre cette équipe, comme j'aime bien appeler l'équipe nationale de parole aux auditeurs. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je sais que nous avons oui entendre que vous allez porter plainte contre les ministres auprès de la Cour de cassation.
Oui, la plainte est en train d'être constituée déjà. Je crois que demain, nous serons dans une grande assemblée générale d'évaluation et au plus tard, le jeudi, nous serons devant le procureur général près la Cour de cassation pour porter plainte contre les ministres. Et j'ai dit également aux enseignants de rester fermes. Eh bien, la grève se poursuit jusqu'à preuve du contraire. Mais en dernier mot, il faut dire que le ministre actuel n'est plus à la hauteur de pouvoir mener les débats, mener la discussion. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque un ministre rate la rentrée des classes, lorsque un ministre n'arrive pas par rapport au dialogue de faire quelque chose, je crois qu'on doit lui retirer le bâton pour que le dialogue soit commandé par d'autres instances, notamment le Premier ministre et pourquoi pas le Président de la République lui-même qui porte cette gratuité.
Alors, au Congo central, on annonce la guerre des marches. Et vous soutenez ça, vous, également?
La marche au Congo central, mais il y a des marches synchronisées que nous sommes en train de projeter à l'Assemblée générale de demain. Eh bien, nous allons communiquer cela. Je crois que dans toutes les provinces, eh bien, nous allons faire comme ça pour faire pression sur l'État qui est notre employeur.
Merci beaucoup, Jean Bosco Opuna. Nous rappelons que vous êtes le porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants en RDC. Merci de nous avoir honoré de votre présence dans ces studios.
C'est moi qui vous remercie, J.R.
C'est par ici que nous mettons un terme à ces programmes. On se retrouve demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.